La semaine dernière, les laboratoires Pfizer et BioNTech annonçaient à une presse médusée dans un communiqué avoir réussi à mettre au point un vaccin contre le Covid-19 efficace, tenez-vous bien, à 90%. Ni une ni deux, la Russie répliquait le lendemain en assurant que son vaccin à elle était efficace à 92%. Et quelques jours plus tard, c'est la société Moderna qui annonçait que son vaccin à elle était efficace à 94%. Et la queue du Mickey est décrochée aujourd'hui par Pfizer qui remet une pièce dans la machine en assurant que son vaccin est maintenant efficace à 95%. Dans le grand bal de la communication des laboratoires pharmaceutiques qui commence à virer à l'absurde, que faut-il croire, que faut-il comprendre et que faut-il attendre? On fait le tri ensemble aujourd'hui. Vaccin anti-Covid, la guerre des labos aura bien lieu, c'est le programme impitoyable qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire le tour de la recherche vaccinale et démêler ce qui relève du communiqué de presse à destination des médias ou des actionnaires et de l'information scientifique fiable, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Odile Launay. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure en maladies infectieuses à l'Université de Paris, coordinatrice du Centre de vaccinologie Cochin-Pasteur et de la plateforme Covirevac. Et Christophe Denfert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur scientifique de l'Institut Pasteur, mais on commence par votre rappel quotidien d'informations scientifiques certifiées et vérifiées avec le journal des sciences confinées de Natacha Triou. Bonjour Natacha.
Bonjour Nicolas.
Et pour commencer ce journal, un sujet justement, encore une fois, autour du Covid et de la problématique des attaques informatiques, puisque Natacha, c'est un autre sujet sur le Covid, on reviendra sur ces histoires d'attaques informatiques. Ce journal, on commence avec cette publication de Nature Communication. Sans jamais avoir été testé positif, les enfants développent tout de même une réponse immunitaire au SARS-CoV-2.
On ne comprend pas bien pourquoi les enfants ne développent pas de forme grave de la Covid-19. Alors face à ce virus, leur réponse immunitaire reste encore mystérieuse. Cette étude australienne est une première étape pour y voir un peu plus clair. À Melbourne, les parents de 3 enfants ont développé des symptômes. La famille entière a donc été testée. Les adultes étaient bien positifs au SARS-CoV-2, mais les tests des enfants se sont révélés négatifs. Les chercheurs leur ont donc fait passer une batterie d'examens tous les 2 à 3 jours. Des prélèvements dans le nez et la gorge, des échantillons de sang, de salive, de sel et d'urine. Si les tests PCR étaient systématiquement négatifs, on trouve dans leurs tests sérologiques des anticorps spécifiques au SARS-CoV-2. Le plus jeune de la fratrie présentait la réponse anticorps la plus forte. Selon les chercheurs, les enfants ont bien été infectés par le virus, mais contrairement aux adultes, leur système immunitaire a été capable de contrer la réplication virale. L'immunité chez les enfants pourrait donc empêcher l'infection par le SARS-CoV-2 de s'établir.
Et voilà, on récupère le micro et on va mettre évidemment comme tous les jours le lien, décidément c'est compliqué ce début d'émission, le lien vers l'étude sur notre fil Twitter @laméthodefc, fil Twitter que vous pouvez retrouver sur le site de l'émission La Méthode Scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. La loi de programmation pluriannuelle de la recherche, la LPPR, a été votée hier à l'Assemblée nationale à la majorité absolue.
Mais après être tombé d'accord avec le Sénat le 9 novembre sur sa version définitive, ce texte est donc finalement adopté. Une réforme décriée par une large majorité d'universitaires. Cette loi de programmation fixe les évolutions budgétaires sur 10 ans avec un budget en dessous des attentes et des besoins. La LPPR modifie le système de recrutement des chercheurs. Elle encourage les CDI de mission et les tenure track, ainsi que les financements de la recherche par appel à projet. Et autre nouveauté de cette réforme, elle criminalise les occupations de fac pour les futures grèves.
Les laboratoires impliqués dans la recherche d'un vaccin contre le Covid-19, justement, je vous en parlais tout à l'heure, font donc face, Natacha, à de nombreuses cyberattaques.
Oui, c'est ce qu'a annoncé récemment Microsoft. Ces derniers mois, 7 groupes pharmaceutiques au Canada, en France, en Inde, en Corée du Sud et aux États-Unis ont subi des cyberattaques ou des tentatives d'attaque. Alors, s'agissait-il d'un simple espionnage industriel ou de véritables nuisances? Ça, on ne le sait pas. En revanche, les pirates sont bien connus de la cyberpolice. Il s'agit du groupe Strontium, lié au renseignement militaire russe. et des groupes Zinc et Cerium, qui font tous les deux de l'espionnage pour la Corée du Nord. Leurs stratégies sont relativement simples, soit ce sont des effractions de réseau en testant un maximum de combinaisons et de codes, soit du hameçonnage qui récupère via InfoSite vos identifiants et vos mots de passe.
Et enfin, selon le journal, selon une étude parue dans la revue Circulation, seules 12 minutes d'exercice par jour amélioreraient la santé.
Oui, en ces temps confinés, sachez qu'un tout petit effort peut faire une grande différence. Une équipe américaine a examiné 411 adultes avant et tout de suite après avoir fait 12 minutes d'exercice intensif de cardio. Ils ont observé les niveaux de 588 métabolites circulants. Alors selon leurs résultats, 12 minutes sont suffisantes pour modifier 80% des métabolites. C'est suffisant pour influencer la santé cardio-métabolique et la santé cardiovasculaire à court terme. Et selon les simulations des chercheurs, ces effets sont même positifs sur le long terme.
Merci beaucoup Natacha, je vous laisse retourner à votre gym tonique et on se retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Avant d'en rentrer dans le sujet du jour justement sur cette question des cyberattaques contre les laboratoires pharmaceutiques, peut-être une réaction à cette information, Odile Launay ou Christophe Denfert. Christophe Denfert pour commencer.
Je pense que les cyberattaques sont régulières, je ne suis pas certain que ce soit... beaucoup plus fréquent. Je sais que par exemple à l'Institut Pasteur, nous sommes régulièrement victimes d'attaques et donc les entreprises se protègent au mieux pour éviter que ces attaques soient délétères. On peut imaginer qu'effectivement sur ces entreprises qui sont à la pointe de la recherche sur les vaccins, qui vont avoir un impact important, il y ait toute une activité de cyberattaque. Ce n'était pas forcément une surprise.
Mmh. Odile Launay, pareil, vous n'êtes pas surprise. Ça veut bien dire qu'on est, en tout cas dans cette recherche vaccinale, dans une sorte de vraie guerre à la fois scientifique, industrielle, technique et cybernétique.
Oui, sûrement. Ensuite, on ne sait pas très bien qui sont les responsables de ces cyberattaques. Est-ce que c'est d'autres industriels ou d'autres développeurs de vaccins qui veulent des informations? Est-ce que c'est des gens qui veulent déstabiliser finalement ces industriels? Je ne sais pas. J'ai pas d'informations sur ces personnes.
Mmh. En tout cas, on suivra évidemment cette question. On va reprendre le fil de notre conversation du jour, puisque depuis bien 10 jours maintenant, c'est-à-dire le 9 novembre, c'est un peu à qui aura le poisson le plus frais ou en tout cas le vaccin le plus efficace. Tout a commencé lundi dernier avec l'annonce de Pfizer et la machine s'est vite emballée. Écoutez plutôt.
La première histoire du jour, c'est celle de ce vaccin anti-Covid qui serait efficace à 90%. C'est le laboratoire américain Pfizer qui l'annonce. Dans la foulée, les marchés se sont affolés, les bourses se sont envolées un peu partout. Alors, ce soir, deux questions, on va essayer d'apporter des réponses. Que sait-on tout d'abord de ce vaccin, puis surtout, quand sera-t-il disponible?
Pfizer, la semaine dernière, Moderna, aujourd'hui, on voit bien que les laboratoires rivalisent d'annonces sur le vaccin contre la Covid. L'américain Moderna, il l'affirme, son vaccin est meilleur que Pfizer. Normal, c'est la concurrence. Il est efficace à 94,5%, au moins c'est précis.
Le vaccin développé par Sanofi est actuellement en phase 2. Si les résultats sont positifs, le géant pharmaceutique compte lancer la production en parallèle de la phase 3. Dernière phase avant une possible homologation et une mise sur le marché.
En décembre, on va lancer la production, donc au mois de juin, on aura déjà plusieurs millions de doses.
Contrairement au vaccin développé par Pfizer et BioNTech, celui-ci n'aura pas besoin d'être conservé à moins 70 degrés.
Nous, notre vaccin sera comme le vaccin grippe, vous pouvez le mettre dans votre réfrigérateur.
Un avantage de taille dans l'organisation logistique lorsque la vaccination débutera.
Voilà, ça commence par une annonce qui a surpris un peu tout le monde. Ça continue, et je le disais tout à l'heure en introduction, si vous nous rejoignez seulement maintenant, par une nouvelle annonce de Pfizer qui a poursuivi ses études et qui aujourd'hui, sur une base de 170 patients infectés au SARS-CoV-2, estime que l'efficacité de son vaccin n'est plus de 90, mais de 95%. Votre réaction à l'un et à l'autre, à cette espèce de surenchère de communication des laboratoires qui brouille un peu le message, ou peut-être tire un peu à l'absurde à la fin. Qu'en pensez-vous, Christophe Denfert?
Alors, oui, ça donne le sentiment effectivement d'une surenchère. En même temps, c'est la conséquence du fait que Beaucoup de projets ont démarré à peu près au même moment, avancent à peu près au même rythme, et du coup que les résultats arrivent à peu près au même moment. C'est bien évidemment, il y a un aspect important pour la prise de position que les États auront dans l'achat de ces différents vaccins, et donc c'est pour ça que les différents protagonistes communiquent de façon très visible. Il faut quand même insister sur le fait que les résultats qui sont communiqués, au moins dans le cas de Pfizer et de Moderna, en fait, sont des la communication de résultats qui ont été analysés par des instances de suivi des essais cliniques qui sont indépendantes des promoteurs de l'étude. Mmh. Donc il faut d'une certaine manière faire confiance à ces résultats.
Odile Lenay, votre sentiment là-dessus, sur cette surenchère à l'efficacité?
Comme Christophe Denfert, je pense que on attend tous ces résultats, on a besoin de ces résultats aussi pour se projeter dans ce que va être l'avenir. C'est des résultats qui, même si ce n'est que des communiqués de presse, sont des résultats qui sont extrêmement encourageants. On sait que ces laboratoires ont fait appel à des comités indépendants, donc on peut accorder notre confiance à ces données. On aimerait effectivement qu'elles soient publiées, mais ça va l'être très prochainement. Il y a évidemment un effet d'annonce avec des enjeux financiers qui sont extrêmement importants, mais en dehors de ça, je pense que pour nous organiser aussi, pour nous projeter dans ce que vont être les mois prochains, c'est extrêmement important de pouvoir avoir dès que possible ces résultats. Donc, oui, un peu un effet d'annonce, bien sûr, mais quand même des annonces qui sont extrêmement importante pour tout le monde.
Bien sûr. Mais alors, il y a quelque chose qui nous a surpris à titre d'observateur de l'actualité scientifique, c'est que, comme vous le dites, Christophe Denfert, ce sont des communiqués dans lesquels les entreprises transmettent les informations qu'elles souhaitent transmettre, bien sûr, mais vous avez raison de dire et de rappeler que les résultats de ces essais cliniques sont analysés par des instances indépendantes, donc que les laboratoires ne peuvent pas non plus raconter complètement n'importe quoi. Pourquoi ne pas transmettre immédiatement des données, des études à la communauté scientifique, au grand public, qui permettrait justement de sortir de cet effet de communication, puisque ces données scientifiques, elles existent, et elles ont été reviewées, elles ont été analysées par des comités indépendants?
Alors, j'aurais du mal à répondre à cette question. Je pense que si vous reprenez, par exemple, le communiqué qui a été fait par Moderna, il y a quand même un certain nombre d'informations qui sont données dans ce communiqué, que ce soit concernant l'effet dans le cas des formes sévères de la Covid, que ça soit sur les problèmes d'effets secondaires avec l'observation qu'il n'y a pas d'effets secondaires graves, mais qu'il y a quand même des effets secondaires modérés dans à peu près un tiers des personnes qui ont reçu ces vaccins. Donc, il y a quand même un nombre d'informations qui transparaissent dans ces communiqués qui ne sont pas négligeables. On est effectivement, comme le disait Odile Launay, en attente de résultats plus détaillés. Mais je pense que ça va venir assez rapidement parce que la communauté scientifique en a besoin, qu'on a aussi besoin d'avoir une vision de peut-être un peu plus moyen terme sur l'efficacité de ces vaccins.
C'était vrai pour Moderna, en effet, c'était moins vrai pour Pfizer, et on a un peu le sentiment, parce que ça a été reproché à Pfizer, hein, finalement, de donner très peu de data sur la nature, justement, des cas sévères ou modérés, sur l'âge des patients ou leur niveau de santé lorsqu'ils ont contracté la maladie, même sur savoir sur les gens qui étaient tombés malades, dans quel bras ils étaient tombés malades, c'était le bras vaccinal ou le bras placebo. Odile Lenay, vous avez une opinion là-dessus, sur le fait que finalement ce serait plus simple pour tout le monde si dès le départ on avait les données des études qui sont disponibles et qui existent? Là, moi, il y a quelque chose, en tout cas dans le jeu financier ou dans le jeu de communication financière, qui m'échappe un peu.
Oui, je pense qu'on a absolument besoin d'avoir ces données, mais on va les avoir très vite. Il faut le temps qu'ils les mettent, qu'ils les mettent en place, qu'ils les transmettent aux grandes revues pour publication. On a vu dans les étapes précédentes que les communiqués de presse précédaient de quelques jours les publications scientifiques. Donc, on va avoir très vite ces publications. Et comme vous l'avez vu, Pfizer a fait un deuxième communiqué de presse ce matin qui présente les résultats, donc cette fois-ci sur 170 cas. 170 cas, c'est ce qui est exigé par les agences réglementaires pour les dossiers d'autorisation de ces vaccins. Et dans ce communiqué de presse, il détaille un peu plus les données. On sait que l'efficacité donc, est de 94%. On sait qu'ils ont eu 10 formes graves et que ces formes graves sont majoritairement observées dans le groupe placebo. Ils n'ont qu'une forme grave dans le groupe vacciné. Ils précisent aussi que l'efficacité calculée chez les plus de 65 ans, et ça c'est un point très important, est de 94%, et ils donnent beaucoup plus de précision sur les effets indésirables. Donc on a des données maintenant qui doivent être affinées avec la publication scientifique, mais qui sont beaucoup plus précises que la première fois.
Eh bien justement, on va les examiner ces données, pas seulement pour Pfizer, pour Moderna, puis pour les autres laboratoires qui sont également en cours de développement d'un vaccin. On va essayer de comprendre quelles sont les différentes techniques, quels sont les différents candidats, et puis quand est-ce que tout ça finira par arriver dans des seringues et potentiellement dans nos bras.
France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin.
Et à 16h17, on fait donc une heure complète d'examen justement de la recherche vaccinale autour du Covid-19 en compagnie d'Odile Launay et de Christophe Denfert. On peut justement, puisque vous avez commencé, Odile Launay, parler de ce candidat vaccin Pfizer. Quand on dit 94% d'efficacité, ça correspond à quoi exactement 94% d'efficacité?
C'est en fait un calcul assez simple qui est fait à partir du nombre total de cas donc identifiés au cours du suivi. Ici, c'est 170 cas.
170 cas donc de gens qui déclarent la maladie, hein, symptomatique.
170 cas de personnes qui ont été identifiées comme ayant la Covid-19 dans le suivi, puisque les participants sont vaccinés, puis ensuite ils sont suivis et on leur demande de se signaler dès qu'ils ont... des signes qui peuvent évoquer la Covid-19.
Donc 170 cas symptomatiques, c'est peut-être important de le préciser aussi.
Alors, c'est pas précisé dans leur communiqué de presse, mais on peut penser que c'est des cas symptomatiques puisque on peut pas prélever de façon systématique et répétée les participants. Donc, c'est très probablement des cas symptomatiques. Donc, sur ces 170 cas, on en a 162 qui sont chez les gens qui ont reçu le placebo et 8 dans le groupe qui a reçu le vaccin. Et donc, avec un calcul assez facile, on peut dire que l'efficacité du vaccin est de 94%.
Vous évoquiez quelque chose d'important, hein, c'est des données qu'on n'avait pas la semaine dernière et qui sont tombées en effet ce matin, Odile Launay, c'est que on n'avait pas la gravité des cas de Covid déclarés bien chez les personnes qui sont tombées malades. On l'a maintenant. Il y a tout de même eu 10 cas graves, 9 dans le groupe placebo, mais 1 dans le groupe vaccin. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette information, Odile Launay?
Il faut comprendre que le vaccin ne protège pas à 100% et on n'a quasiment aucun vaccin qui protège à 100%. Donc, on n'aura pas une protection absolue avec ce vaccin. Mais on ne s'attendait pas à avoir 100% d'efficacité. Comme vous le savez, l'OMS avait donné comme seuil d'efficacité pour un vaccin 50%. Là, on est à 94%. Il va falloir qu'on voit sur un nombre plus élevé de participants si la protection des formes graves est du même niveau que la protection sur l'ensemble des cas de Covid. Ça reste bien sûr dans les choses qu'on attend, mais toujours est-il qu'on a la confirmation que ce vaccin protège des formes sévères.
La cohorte de Pfizer, c'est 44 000 personnes, c'est bien cela?
Oui.
Un mot, Christophe Denfert, justement, sur c'est intéressant sur ce cas grave, un cas grave dans le groupe vaccinal. Est-ce qu'on a plus d'informations? Un cas grave, ça veut dire une réanimation? Est-ce qu'on a, on sait comment l'expliquer? On a une échelle pour mesurer la gravité des cas qui sont représentés dans cet essai?
Alors, je n'ai pas cette information, mais on peut effectivement penser que par cas grave, on considère les personnes qui sont rentrées en réanimation. Ce que vous voyez, en fait, c'est que dans les 162 personnes qui ont développé la COVID et qui faisaient partie du groupe placebo, il y en a 9 qui ont développé un COVID sévère. Dans les 8 personnes qui étaient vaccinées et qui ont développé une COVID, il y en a un qui a développé un cas sévère, ce qui est relativement équivalent. Effectivement, il faudra de plus grands nombres pour savoir quel est le ratio entre les cas sévères et non sévères dans les personnes vaccinées et voir s'il y a plus d'échappement vers les cas sévères. On peut imaginer, et c'est ce qui est indiqué, par exemple, dans le cas de Moderna, où dans le cas de Moderna, il n'y a pas eu, en fait, dans le groupe vacciné, de cas sévères. Mais ce qui est indiqué, c'est effectivement le fait que la population vaccinée et recevant le placebo inclut des personnes à risque, soit du fait de l'âge, soit du fait éventuellement de comorbidité. Et donc, il n'est pas forcément surprenant que dans ces populations, on ait des formes graves de Covid qui apparaissent.
On a évidemment pour le moment pas d'informations sur le profil de ces cas sévères. On ne sait pas si ce sont des gens particulièrement âgés ou des gens avec des comorbidités. Je parle sous votre contrôle, l'un et l'autre, Odile Launay. On ne sait pas pour le moment, on n'a pas ces informations sur les cas sévères.
Non, il n'y a pas de description des cas sévères. C'est bien sûr ce qu'on va attendre dans la publication scientifique.
Peut-être un mot aussi par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, qui me paraît quand même important. L'OMS avait fixé une feuille de route en disant si on trouve un vaccin à 50% d'efficacité, ce sera formidable et c'est ce qu'on attend. Et là, on arrive avec des laboratoires qui ont des taux d'efficacité, qui sont des taux d'efficacité très très élevé, puisque 94-95%, on est sur un taux d'efficacité équivalent au vaccin contre la rougeole, qui est l'un des vaccins les plus efficaces qu'on ait développé. Comment est-ce qu'on explique qu'on soit passé d'un discours qui disait « Oulala, on n'a jamais fait de vaccin contre les coronavirus, on n'en a jamais mis sur le marché à part des vaccins vétérinaires qui avaient une efficacité limitée, et là, donc on ne sait pas si on va trouver des vaccins très efficaces, et là, d'un seul coup, on est une offensive de vaccins plus efficace que la plupart des vaccins qu'on connaisse. Comment on explique ça, Christophe Denfert ?
C'est une vaste question. Je ne suis pas sûr qu'on ait aujourd'hui une explication à cela. Je pense que d'abord, il faut probablement attendre d'avoir un peu plus de recul sur ces vaccins pour avoir une idée de leur efficacité. Ici, on parle d'une efficacité dans un délai relativement court, suite à la deuxième injection utilisée dans la vaccination. Donc je pense qu'il va falloir attendre quelques mois pour se rendre compte de l'efficacité réelle dans la durée de ces vaccins. Ensuite, on n'a pas beaucoup de recul sur la vaccination contre les coronavirus puisque en ce qui concerne la première épidémie due à un coronavirus, le SARS-CoV-1, au début des années 2000, en fait, cette épidémie a été contrôlée par des mesures essentiellement sanitaires, ce qui n'a pas permis finalement aux stratégies vaccinales de montrer leur efficacité en population. De la même manière, sur le MERS coronavirus, il n'y a pas eu une pression suffisamment forte pour qu'il y ait un développement vaccinal au même titre qu'il y en a un dans le cas de la pandémie de SARS-CoV-2. Donc voilà, les technologies ont aussi avancé. On peut penser que c'est ce qui contribue d'une certaine manière à l'efficacité de ces vaccins, mais je crois qu'il faut être précautionneux parce que on ne sait pas aujourd'hui sur combien de temps l'immunité conférée par ces vaccins va se maintenir.
Bien sûr. On parlera de la durée d'immunité tout à l'heure. Vous parlez de technologie là aussi. Moi, c'est quelque chose que je trouve assez surprenant dans ma position d'observateur depuis pas loin de 10 mois maintenant de cette pandémie. Odile Launay, c'est qu'il y a plusieurs stratégies vaccinales qui sont développées, qui sont suivies par différents laboratoires. Et les premiers résultats et les plus encourageants viennent d'une stratégie vaccinale qui est une stratégie vaccinale nouvelle, c'est-à-dire qui n'a pour le moment jamais donné lieu de mise sur le marché de vaccins donc qui serait développé à grande échelle. Vous pouvez peut-être nous rappeler ce que c'est que cette stratégie vaccinale, hein, c'est-à-dire celle de Pfizer et Moderna, la stratégie de vaccin par ARN messager, et comment on explique que ce soit une technologie émergente qui d'un seul coup donne les résultats les plus rapides.
Alors, c'est une technologie effectivement récente, hein, mais qui a été justement développée pour permettre de répondre très rapidement à des maladies infectieuses émergentes. Donc, c'est en fait une technologie tout à fait adaptée parce que elle permet de construire, de fabriquer un candidat vaccin dans les jours qui suivent l'identification de l'agent infectieux et surtout la mise au point de son génome. Et donc, quand on regarde ce qui s'est fait par Moderna, par exemple, ils ont développé le vaccin, le candidat vaccin, 48 heures après avoir eu la composition de la spike protéine, la protéine S.
Hein, la protéine de surface.
La protéine de surface contre laquelle on veut induire une réponse qui a été identifiée comme étant protectrice. Et ça, c'est vraiment un record. Et ça explique que 2 mois après, ils ont démarré les essais cliniques chez l'homme et qu'ils ont pu démarrer des phases 3 dès le mois de juillet, c'est-à-dire à peine 6 mois après la découverte du génome du virus.
Mais pourquoi ça a été aussi rapide? Pourquoi est-ce que c'est aussi facile de faire des vaccins à ARN? Et puis, réexpliquez-nous aussi tout de même, c'est important, comment ça marche?
Alors, comment ça marche? En fait, on fabrique donc cet ARN messager qui est donc un précurseur de cette protéine S, et cet ARN messager va être produit dans un système d'expression cellulaire pour avoir la bonne conformation, mais c'est très facile à produire. Ensuite, il est protégé par une capsule lipidique qui va le protéger et permettre qu'il atteigne sans être dégradé la cellule immunitaire, et il va ensuite utiliser le contenu de cette cellule pour produire cette protéine S. Donc c'est en fait du matériel génétique du virus qui peut être produit donc en dehors d'un virus lui-même, d'une culture de virus, et qui va donc permettre très rapidement de faire produire cette protéine S, de la faire exprimer et d'induire une réponse immunitaire.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est notre corps qui va faire en sorte que certaines cellules particulières du système immunitaire vont présenter cette petite protéine pour entraîner le système immunitaire adaptatif à produire des bons anticorps. Est-ce que j'ai bien résumé?
Oui, qui vont en fait, à partir de cet ARN messager, exprimer la protéine et la faire reconnaître pour avoir une réponse immunitaire spécifique.
Mais alors, je lisais à ce propos, parmi les nombreuses inquiétudes qui peuvent circuler sur les différents réseaux, que bien cette technique, ça allait conduire à inclure justement une partie du génome du virus à l'intérieur de nos propres cellules, et donc que cette inclusion allait pouvoir finalement se répercuter sur plusieurs générations et devenir héréditaire pour les gens qui avaient été vaccinés. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Odile Lenay?
Alors, à ma connaissance, hein, cet ARN messager, il est rapidement détruit. Donc, il ne va pas persister dans les cellules qui vont ensuite se répliquer. Il va permettre la synthèse de la protéine de surface. Et ensuite, ces cellules, vont quand elles vont disparaître, ne vont plus comporter cet ARN messager. Donc, il n'y a pas d'inclusion dans le matériel génétique de nos cellules, donc notre propre matériel génétique. Il n'y a pas d'inclusion de cette partie du génome du virus. Donc, il n'y a aucune inquiétude aujourd'hui à avoir par rapport à cette question justement de conservation de ce matériel génétique d'origine virale.
Christophe Denfert, peut-être un mot alors sur les explications du fait que ce soit cette technique émergente qui ait donné une réponse aussi rapide et qu'il ait été aussi simple, comme l'a décrit Odile Lenay, de tout de suite produire ces petits fragments d'ARN messager dès qu'on a pu séquencer le patrimoine génétique, puisque c'est un virus ARN, l'ARN lui-même du virus, l'ARN viral?
Je crois que un des points aussi qui a permis à toutes les équipes qui travaillaient sur la construction de candidats vaccins d'aller vite était la connaissance qu'on avait des coronavirus, en particulier du SARS-CoV-1 qui a été responsable de l'épidémie du début des années 2000, et on savait déjà que la protéine S, la protéine de spicule, était un antigène qui permettrait d'avoir des réponses vaccinales efficaces. Donc en fait, on avait très très rapidement, au début de cette pandémie, au mois de janvier, les deux pièces du puzzle. D'un côté, le génome du coronavirus et du coup la séquence qui correspond à la protéine spike, et de l'autre côté des technologies qui sont différentes les unes des autres. Donc là on parle de la technologie ARN, mais il y en a d'autres, et du coup il fallait ça a permis d'aller très très rapidement dans la construction des candidats vaccins. Et effectivement, les technologies basées soit sur l'utilisation de l'ARN, soit sur l'utilisation de l'ADN, sont des technologies qui permettent d'aller le plus vite possible par rapport aux autres technologies. Et donc ça explique, comme l'a dit Odile Lenay, que Moderna a été en mesure de démarrer un essai clinique de phase 1 dès le mois de mars, ce qui est un record, hein. Il y a moins de deux mois entre la connaissance du génome du coronavirus SARS-CoV-2 et le démarrage des essais cliniques de phase 1, ce qui est, à mon avis, sans précédent. Donc, véritablement, c'est la disponibilité de technologies qui sont bien maîtrisées par les différents acteurs que sont Moderna, BioNTech, on n'a pas parlé de CureVac en Allemagne aussi, et la connaissance des coronavirus qui a fait qu'on a pu aller très très vite. Ceci couplé probablement au fait que les autorités de régulation ont aidé à ce que les projets se mettent en place rapidement, sans pour autant négliger les règles de sécurité et d'éthique dans le domaine de l'évaluation des vaccins.
C'est important, et ça aussi on y reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie. J'aimerais juste qu'on dise un dernier mot, et quitte à rentrer un peu dans le détail et à être un peu technique, Odile Lenay, puisque Pfizer et Moderna sont deux candidats vaccins ARN messager. Est-ce qu'on sait ce qu'est la différence entre ces deux candidats vaccins? Est-ce qu'on sait si quelle est la touche, ou quelles sont les recettes différentes qu'ont suivi Pfizer et Moderna, ou est-ce qu'on n'a pas encore assez d'éléments pour faire le distinguo entre les deux formules?
Alors, à ma connaissance, ces candidats vaccins sont très proches. On n'a pas évidemment les détails sur, en particulier, la technique d'encapsulation, donc cette protection qui est conférée par une capsule lipidique qui entoure ces ARN messagers. On peut penser potentiellement que les techniques utilisées sont pas exactement les mêmes, qui peut expliquer aussi cette différence de conservation dont on a beaucoup parlé.
Donc on va reparler aussi.
Voilà, je n'ai pas plus d'informations. Peut-être que Christophe Denfert a des informations complémentaires.
Christophe Denfert, j'ai lu qu'il était possible que le vaccin de Pfizer contienne des nucléotides modifiés. Alors, sans rentrer dans des détails trop techniques, pour éviter la détection de l'ARN messager par une protéine en particulier à l'intérieur de l'endosome, vous avez cette information-là aussi ou pas?
Alors, j'ai pas cette information-là. Ce qu'on sait, c'est que finalement notre système immunitaire a des moyens de reconnaître les molécules d'ARN, et il est probable, mais j'ai pas cette information, que la modification de l'ARN, c'est-à-dire de faire qu'il n'ait pas exactement la composition chimique qu'il a normalement dans la nature, évite cette reconnaissance par notre système immunitaire et le développement d'une réponse immunitaire qui serait inappropriée par rapport à celle qui est recherchée, qui a pour but effectivement que nos cellules qui ont reçu cet ARN messager vaccinal se mettent à produire la protéine de spicule, et du coup que notre système immunitaire réponde par la production d'anticorps.
On va continuer à discuter des candidats vaccins, mais il n'y a pas que Pfizer et Moderna dans la vie. Il y a plein d'autres recherches en cours, plus ou moins avancées. On va essayer de continuer à faire le tour, à comprendre eh bien, quelles sont les autres stratégies vaccinales et puis à savoir, encore une fois, quand, au oui, quand ces petits vaccins pourront être injectés. Nous poursuivons chaque jour notre soutien à la scène musicale indépendante française en cette période difficile de confinement avec aujourd'hui de Pénélope, c'est cette jolie voix féminine que vous avez entendue, c'était Virginie Ledoyen pour le titre Affliction à 16h38 sur France Culture. Nous continuons donc à parler aujourd'hui de la vaccination et de la recherche vaccinale autour du Covid-19. Nous en parlons avec Odile Launay qui est professeure en maladies infectieuses à l'Université de Paris, coordinatrice du Centre de vaccinologie Cochin-Pasteur et de la plateforme Covirevac, et Christophe Denfer qui est directeur scientifique de l'Institut Pasteur. On a beaucoup parlé de Pfizer et de Moderna. La deuxième personne morale, ou en tout cas scientifique, la deuxième entité à avoir répondre, c'est la Russie, par une voie là aussi un peu particulière, et son candidat vaccin Sputnik V, qui était en fait le premier candidat vaccin annoncé, alors pas de manière tout à fait officielle puisque c'était via la voix du président russe Vladimir Poutine lui-même. Qu'est-ce qu'on sait exactement, Odile Launay, à propos de ce candidat vaccin Sputnik ?
Alors, on sait à partir de quelle technologie il a été développé. Donc, c'est un vaccin vectorisé, c'est-à-dire qu'il utilise un virus qui n'est pas pathogène pour l'homme.
Un adénovirus ?
Un adénovirus qui a été modifié, dont le génome a été modifié pour insérer les gènes qui vont coder pour cette protéine S. Et on sait que ce vaccin n'est pas très différent du vaccin qui a été développé, par exemple, par les chercheurs d'Oxford. On a des données de phase 1 qui ont été publiées dans le Lancet, donc dans une revue scientifique, qui ont été en partie critiquées parce que les résultats étaient semblaient très uniformes et il y Il y a eu un certain nombre de critiques qui ont été formulées contre ces résultats. Voilà, on ne peut pas remettre de façon systématique en doute ce vaccin. On sait que les chercheurs russes ont une bonne maîtrise de la recherche en biologie, de la recherche vaccinale. C'est des gens qui travaillent sur le vaccin depuis longtemps. Donc, on doit accorder un minimum de confiance à ce qui est fait en Russie. Mais on manque aujourd'hui d'éléments pour en savoir plus, en dehors d'une communication qui a été faite très brève, là, pour le coup. Sur l'efficacité de ce vaccin.
On sait qu'a priori, ce vaccin n'a pas été testé encore en phase 3. Moi, j'ai trouvé des essais réalisés sur 76 personnes. Donc, on serait sur une phase 1-2. Vous confirmez cela, Odile Launay ?
Oui, c'est ce qu'on a eu comme données. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils ont commencé à vacciner. Mais c'est vrai aussi pour les vaccins chinois, mm-hmm. Avec des vaccinations en population générale qui ont démarré alors qu'ils n'avaient pas de résultats d'essai de phase 3.
Christophe Denfert, des éléments d'information également sur ce vaccin russe Sputnik ?
Non, pas nécessairement. Ce que j'ai compris de la communication qui a été faite récemment, c'est que le nombre de personnes qui avaient contracté la Covid dans cet essai était de l'ordre de 20. Ce qui reste un chiffre relativement faible. Alors oui, ça veut dire qu'il y a 19 personnes qui recevaient le placebo qui ont décontracté la Covid et un qui avait reçu le vaccin. Je pense que c'est encore précoce pour donner ces chiffres au regard, par exemple, des chiffres qui sont annoncés, par exemple, pour les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech. Donc, je crois qu'il faut attendre des résultats complémentaires pour véritablement savoir ce qu'il en est sur ce vaccin. Il y a effectivement, on revient au début de la discussion, il y a un côté un peu propagandiste, peut-être, dans ce cas-là.
J'ai lu également, Odile Launay, que deux adénovirus de type différent avaient été utilisés pour susciter une réponse immunitaire plus forte qu'avec un seul. Là, ça aussi, c'est une information que vous pouvez confirmer ?
Alors, j'ai pas d'informations vraiment spécifiques. Ce qui est possible, c'est qu'une des limites de ces vaccins vectorisés, donc qui utilisent d'autres virus, c'est qu'on développe une immunité contre le virus, donc contre le vecteur, en plus de l'immunité contre la Covid, là, en l'occurrence. Et donc, quand on fait une deuxième injection, l'intérêt de la deuxième injection peut être réduit par cette immunité qui a été développée. Donc, ça peut être une stratégie intéressante si on veut contourner cette diminution de l'immunité avec la première injection.
Que sait-on également des vaccins chinois développés par CanSino Biological et Beijing Institute of Biotechnology? Là aussi, on a des informations assez parcellaires, mais comme vous l'avez dit, Odile Launay, a priori, plusieurs vaccins auraient déjà été administrés à une partie de la population, et notamment au personnel soignant.
Oui, alors on sait que les Chinois sont très actifs sur la recherche vaccinale. Ils ont développé plusieurs types de vaccins. Ils ont développé des vaccins inactivés, qui sont les vaccins, j'allais dire, un peu ancienne génération. On prend le virus et on l'inactive et on utilise donc ce virus inactivé comme vaccin.
Le vaccin contre la variole, par exemple.
Par exemple, le vaccin contre la variole, le vaccin contre la polio. Et donc ils ont développé ce vaccin et ils ont démarré des essais de phase 3, mais pas dans leur pays, puisque le virus ne circule pas de façon suffisante. Et dans le même temps qu'ils ont lancé les phases 3 dans d'autres pays, ils ont commencé à vacciner. Alors d'abord les militaires, et puis de façon plus récente, mais depuis maintenant plusieurs mois, la population générale, avec, semble-t-il, un très fort engouement de la population pour ce vaccin. Ils ont aussi développé des vaccins vectorisés avec là aussi des adénovirus. À ma connaissance, ces vaccins-là sont également en phase 3, en particulier dans des pays du Golfe ou en Iran, je crois, ou en Turquie, je ne sais plus précisément. Donc ils ont plusieurs vaccins et ils ont commencé les vaccinations en même temps quasiment qu'ils démarraient leurs essais de phase 3 dans d'autres pays pour avoir des infections.
Christophe Denfert, sur ces vaccins chinois. Dès le mois de mai, hein, le président chinois Xi Jinping disait que le pays testait 5 vaccins différents.
Oui, donc comme Odile Launay l'a dit, hein, les deux stratégies principales qui ont été utilisées par les équipes chinoises, c'est des vaccins inactivés et une stratégie de vaccins vectorisés utilisant un adénovirus humain dans une stratégie assez similaire de celle qui est développée pour Sputnik V, excepté, comme cela a été dit, que Sputnik V utilise deux adénovirus humains de façon à ne pas utiliser le même vecteur au moment de la première injection de vaccination et au moment du rappel, pour limiter les effets inflammatoires, par exemple. Donc, voilà, donc je pense que les seules informations que j'aurais en plus de ce qui a été dit, c'est que, par exemple, je crois que sur un des vaccins inactivés qui est actuellement en essai de phase 3 au Brésil, il y a eu un arrêt du protocole parce que il y a eu un cas, soit un décès, soit
il y a eu un décès en effet.
Un cas, voilà. Il y a effectivement, Odile pourra commenter là-dessus, mais la stratégie des vaccins inactivés n'est pas une stratégie qui a été privilégiée, au moins qui n'est pas privilégiée dans les pays de type Amérique du Nord ou Europe. Probablement parce que les risques associés à ces vaccins sont probablement plus élevés que les risques associés soit aux stratégies de type ARN-ADN ou aux stratégies de vecteurs vectorisés, soit parce que l'inactivation peut être pas totalement efficace, qui peut être un problème, soit parce que les effets secondaires, le type de réponse immunitaire qui est induite par ces vaccins peut être inapproprié.
Oui, on peut rappeler brièvement, Odile Launay, effectivement, hein, que c'est le problème des vaccins inactivés, que c'est pour ça que c'est une technique qui a été petit à petit un peu laissée de côté, c'est qu'on prend des vaccins, qu'on les affaiblit, mais problème chez des gens qui ont un système immunitaire un peu fragile, bien parfois le vaccin n'est pas suffisamment affaibli et ça peut provoquer malgré tout des pathologies et donc avoir l'effet exactement inverse que ce qu'on souhaite.
Alors en fait, c'est deux approches différentes. L'approche du vaccin vivant atténué, c'est effectivement l'approche qui consiste à atténuer la virulence du virus, c'est-à-dire sa capacité à induire une infection et une infection grave. Essentiellement, jusqu'à présent, cette atténuation se faisait par des cultures successives de virus qui, avec ce virus-là, posent un certain nombre de problèmes. Qui maintenant, avec des technologies modernes, peuvent se faire avec des manipulations du génome quand on a identifié les critères, les facteurs de virulence du virus, et ce qui n'est pas le cas en tous les cas pour l'instant avec le SARS-CoV-2. L'intérêt de ces vaccins, c'est qu'ils induisent une réponse immunitaire qui est très proche de celle qu'on peut avoir avec le virus lui-même. L'inconvénient, c'est, vous l'avez dit, quand on est chez quelqu'un qui a des défenses immunitaires qui marchent moins bien, ça peut entraîner une véritable maladie vaccinale. Les vaccins inactivés, les virus inactivés, on inactive le virus, donc là, ça ne comporte pas ce risque de maladie vaccinale, d'infection par le vaccin. Mais en revanche, comme l'a dit Christophe Denfert, en fait, sont des vaccins qui mettent en place une réponse essentiellement avec des anticorps, une réponse humorale. Et dans le cadre du SARS-CoV-2, ce qu'on souhaite, c'est avoir une réponse également cellulaire, donc les deux types de réponses. Et ces vaccins-là ne sont pas les mieux placés pour se faire. Donc c'est pour ça que les stratégies qui ont été développées finalement s'adressent peu à ces technologies, que ce soit le vaccin vivant avec les limites et les risques qu'on a soulignés, mais également les vaccins inactivés.
Un mot, Christophe Denfert, également, on va passer rapidement sur le vaccin Oxford, quoi qu'on en reparlera peut-être parce que l'heure tourne, mais un mot également sur les recherches menées par l'Institut Pasteur d'une part et par Sanofi Pasteur de l'autre, parce qu'il y a deux candidats à vaccins qui ont opté pour des stratégies différentes et qui sont des options aussi assez intéressantes.
Alors, je ne peux pas parler beaucoup du candidat développé par Sanofi Pasteur et en partenariat en particulier avec GSK. Sanofi Pasteur développe deux stratégies vaccinales. Celle qui est développée en partenariat avec le groupe GSK est basée en fait sur la production de la protéine S hein, donc, et la vaccination avec cette protéine purifiée. En conjonction avec un adjuvant qui va permettre de favoriser la réponse immunitaire. Donc l'Institut Pasteur est distinct hein, de Sanofi Pasteur, même si on partage le nom de Louis Pasteur, et donc l'Institut Pasteur n'est pas impliqué dans le développement du vaccin développé par Sanofi Pasteur. Donc à l'Institut Pasteur, nous travaillons sur trois stratégies vaccinales. Celle dont on a parlé le plus est basée sur l'utilisation du vaccin rougeole comme vecteur de vaccination. Donc l'idée est qu'on va modifier le patrimoine génétique du virus qui est utilisé dans le vaccin rougeole pour permettre la production de la protéine de spicule du coronavirus. Et donc aujourd'hui, ce vaccin, on va dire rougeole coronavirus, est actuellement en phase de test dans un essai clinique de phase 1 qui est en particulier réalisé dans le centre d'investigation clinique que dirige Odile Launay. Mmh. Nous avons d'autres projets, donc un vaccin qui lui aussi fait appel à un vecteur viral, mais cette fois-ci non pas le virus de la rougeole, mais un lantivirus. Donc les lantivirus sont une famille de virus qui comprennent le virus VIH. Et là encore, on a des résultats qu'on appelle précliniques, donc avant le passage chez l'homme, qui sont très favorables et qui permettent d'imaginer le démarrage assez rapidement d'un essai clinique de phase 1. C'est un travail qui est réalisé en partenariat avec la société Theravectis. Et puis finalement, on a une stratégie de vaccination ADN qui, là aussi, donne des résultats intéressants en termes d'expérience préclinique et qui pourrait justifier un passage dans des essais cliniques chez l'homme.
Un mot peut-être, il nous reste assez peu de temps, mais sur un certain nombre d'inquiétudes qu'il peut y avoir, et on sait à quel point elles sont fortes en France autour de la vaccination, et on le sait, on l'a dit, on l'a entendu, on l'a répété, un vaccin normalement c'est 8 à 10 ans de développement parce que ça doit être un médicament extrêmement sûr du fait que bien on vaccine des gens qui sont sains et donc les effets secondaires tolérés doivent être extrêmement bas pour que ces vaccins puissent être acceptés contrairement à des vaccins ou à des médicaments que l'on donne à des personnes qui sont déjà malades. Peut-être un mot là-dessus, est-ce que le fait que ça se développe aussi vite Odile Launay, c'est un sujet d'inquiétude, est-ce qu'il faut être plus prudent avec ces vaccins qu'avec des vaccins qui suivent le cours normal de développement?
Alors, ça va sûrement être un sujet d'inquiétude, d'autant plus que les Français ont, en règle générale, beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis des vaccins et vis-à-vis de leur sécurité. Je crois qu'il y a plusieurs points par rapport à cette question. Il y a, d'une part, la nécessité d'être le plus pédagogue possible et le plus transparent possible sur la façon dont se sont développés ces vaccins et pourquoi on a pu accélérer leur développement. Je crois que c'est un point vraiment qui est majeur et on doit essayer d'expliquer le mieux possible que à la fois les progrès en termes d'immunologie, de virologie, mais aussi de production ont permis que ça se développe très vite, mais que ce développement accéléré a quand même été fait en respectant les règles qui permettent d'assurer la sécurité de ces produits. Le deuxième point, c'est que ces vaccins ont été développés très vite parce qu'on avait un besoin, une urgence. Hein. On voit bien aujourd'hui que la vie a complètement changé depuis la circulation de ce virus et que donc ce vaccin va apporter un intérêt, va apporter vraiment une aide majeure dans la gestion de cette crise, mais qu'on va vacciner en priorité des gens pour lesquels le bénéfice et ce qu'on appelle le bénéfice-risque va être le plus important. C'est-à-dire que avant d'avoir plus de données, plus de recul avec ces vaccins qu'on va avoir au fur et à mesure, on va commencer la vaccination dans des populations qui sont soit les plus exposés, en particulier les professionnels de santé, soit les plus à risque de faire des complications et de faire des formes graves qui les mènent à l'hôpital et en réanimation ou qui les mettent à risque de décès. Dans ces situations-là, le bénéfice risque sera le plus important
bien sûr.
Et ça va nous permettre d'avoir plus de recul par rapport à ces vaccins et de toute façon, on n'aura pas des vaccins pour tout le monde en même temps. Donc voilà un peu la stratégie. Je crois encore que le plus important, c'est qu'on explique le mieux possible et avec le plus de transparence possible comment les vaccins ont été développés, qu'est-ce qu'on a comme données et qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui comme données, mais qu'on va acquérir dans les mois qui viennent.
Un mot, Christophe Denfert. Alors, c'est compliqué, évidemment, d'ouvrir ce dossier-là à si peu de temps de la fin, mais quand on voit que beaucoup d'inquiétudes ont été générées lorsque les médias ont relayé des interruptions d'essais suite à un décès, parfois, suite parfois à d'autres effets secondaires inattendus, ou des effets secondaires graves. Quelle foi il faut mettre ou dans ces informations-là, est-ce que ce sont des informations qu'il faut retenir et qui sont susceptibles de générer de l'inquiétude, à juste titre?
Alors, il y a deux façons de voir les choses. Il y a une façon qu'effectivement, il peut y avoir des effets secondaires associés à ces vaccins. Et je suis entièrement d'accord avec Odile Launay sur le fait qu'il faut être le plus transparent possible si on veut qu'il y ait une adhésion de la population à la vaccination. Donc les vaccins peuvent être associés à des effets secondaires. Il faut en prendre attention. Il faut noter que, par exemple, dans l'essai AstraZeneca Université d'Oxford, vous faites référence à ces cas de myélite latérale. L'essai a été immédiatement interrompu et pour s'assurer que Effectivement, ce n'était pas le vaccin qui était en cause et les essais ont repris après que ces éléments-là aient été investigués. Donc c'est relativement rassurant, on ne fait pas les choses n'importe comment, on ne prend pas de risques. Je crois que cela veut aussi dire que il y a une transparence sur la manière dont les essais sont conduits. Et donc ça doit rassurer les personnes. Donc il y a des effets secondaires. Les résultats qui sont donnés aujourd'hui par Moderna, par Pfizer, donnent des éléments sur ces effets secondaires. Et donc il sera important de communiquer sur ces effets secondaires pour que le public se rende compte que oui, ce sont des effets secondaires, mais au regard de l'apport que le vaccin peut avoir en termes de protection contre la Covid, ils sont relativement négligeables et que, en parallèle de ça, les essais sont conduits de façon transparente en prenant soin de ne pas mettre à risque les volontaires dont on peut remercier l'implication dans l'évaluation de ces vaccins.
Merci beaucoup, en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de cette recherche vaccinale et nous permettre d'y voir un peu plus clair. On continuera bien entendu à suivre toutes ces annonces au fur et à mesure quand il le faudra dans le journal des sciences, dans la radiographie du coronavirus le vendredi matin. Bref, autant que faire se peut. Merci Odile Launay, merci Christophe Denfert, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Ludovic Auger aujourd'hui à la technique. Demain, eh bien, on entend beaucoup parlé là aussi depuis quelques mois de cette fonction, mais qu'est-ce que c'est qu'exactement qu'une exponentielle? Saviez-vous par exemple que le taux d'intérêt de votre livret A, c'est une exponentielle très lente certes, mais c'est une exponentielle tout de même. On refait le point, promis, on n'ira pas à toute l'heure demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.